Jean chapitre 6, à partir du verset 16 et jusqu'au verset 21. Et pour la lecture, je vous invite à vous lever. Jean chapitre 6, à partir du verset 16. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaüm, de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait, et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, en kilomètres, ça fait entre 4,5 et 5,5, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque. Et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, « C'est moi. Soyez sans crainte. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, la barque toucha terre, là où ils allaient. Prions. Notre Seigneur, nous te remercions pour cette parole, pour ce récit que tu nous as préservé. Et nous prions que par la puissance de ton esprit, que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas, et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez reprendre place. Depuis presque 40 ans, le département de la littérature anglaise d'une université aux États-Unis, je pense que c'est San Jose, organise le concours de fiction de Bulwer Lytton. Nommé pour Edward Bulwer Lytton, c'est un homme politique et un écrivain anglais du 19e siècle. Et pour participer à ce concours, il faut imaginer que l'on est sur le point d'écrire un roman. Et pour le concours, on n'écrit pas tout un roman. On écrit juste la première phrase d'un roman. Et pour gagner le concours, il faut écrire la pire première phrase d'un roman. Et si ce concours porte le nom de cet auteur, Edward Bulwer Lytton, c'est parce que c'est lui qui a démarré un de ses romans avec la phrase considérée comme un des plus grands clichés de tous les temps. C'était une nuit sombre et orageuse. Mais on a affaire aujourd'hui avec des événements d'une nuit sombre et orageuse. Et c'était une nuit sombre et orageuse comme nulle autre. Mais si cette phrase et cette idée sont devenues un cliché, c'est évidemment parce que nous connaissons tous très bien l'agitation que peut provoquer un orage et la solitude et les troubles que provoquent les ténèbres. Et en parlant de critique littéraire, il est fascinant d'observer la façon dont Jean raconte les événements de cette nuit-là. Il est surtout très intéressant de noter ce qu'il ne dit pas. L'histoire de cette nuit est assez bien connue. On l'a dans deux autres évangiles. Et il semble que Jean présume quelque part que l'on connaît tous l'histoire. Sinon, la fin du verset 17 serait juste un gros spoiler. Il dit tout au début de l'histoire, Jésus ne les avait pas encore rejoints. Chose bizarre si l'on ne connaissait pas déjà l'histoire. Jean attend à ce qu'on connaisse déjà ce qui se passe. Et c'est normal, l'évangile de Jean a été écrit bien après les trois autres, les évangiles dits synoptiques. Et pour la plupart, Jean nous raconte des choses que l'on ne voit pas dans les autres évangiles. J'ai mentionné la dernière fois que l'histoire de la multiplication des pains, c'est le seul miracle qui apparaît dans tous les quatre évangiles, à part la résurrection de Jésus. Et dans Matthieu et Marc, après la multiplication des pains, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Et même si les évangiles ne nous donnent pas toujours les événements dans un ordre chronologique exact, là c'est un élément commun entre les trois, Matthieu, Marc et Jean. Après la multiplication des pains, Jésus marche sur les eaux. On peut imaginer les églises de la fin du premier siècle, cachées peut-être dans des maisons, et reçoivent pour la première fois l'évangile selon le cher apôtre Jean. Et tout le monde est là pour écouter leur pasteur qui lit ce nouveau livre. Et dès qu'ils arrivent à la fin de l'histoire, de la multiplication des pains, et qu'il est question des disciples qui montent dans une barque pour traverser la mer, on peut imaginer tous les enfants qui regardent leurs parents, qui chuchotent, « Ah oui, je connais celle-là, c'est Jésus qui marche sur les eaux. » Et à la fin du verset 17, c'est comme si Jean veut leur dire, « Eh oui, je parle bien de cette nuit-là. » Mais pour une nuit si remarquable, Jean nous en dit très très peu. Le père d'église, Jean Bouchetor, en fait, il dit que Jean parle forcément d'un autre moment, que Jésus a dû faire ce miracle deux fois. Mais ce n'est pas quand même le consensus, et je ne suis pas d'accord non plus. Et la tentation pour plusieurs prédicateurs et commentateurs, et je comprends la tentation, c'est de remplir les trous avec tout ce qu'on apprend dans les autres évangiles de Matthieu et Marc. Et comme ça, on prêche l'événement plus généralement, avec tous les détails qu'on peut trouver. Mais même si je comprends la tentation, j'ai aussi envie de dire, et si on accordait à Jean un peu de respect ? Jean, et notamment le Saint-Esprit, qui œuvre en lui, a choisi de raconter cette nuit d'une façon différente et particulière. Ce n'est pas une contradiction, mais il a choisi les éléments qu'il voulait communiquer. Dans les évangiles de Matthieu et Marc, c'est vrai, on a beaucoup plus d'informations sur cette nuit. Par ces deux évangiles, nous savons que la raison pour laquelle les disciples ont traversé la mer, c'était parce que Jésus leur a dit de le faire. Nous lisons dans Marc que Jésus voyait que les disciples avaient beaucoup de peine à ramer à cause du vent. Nous savons que c'était la quatrième veille de la nuit, donc après 3 heures que Jésus est venu. Nous savons que les disciples croyaient que c'était un fantôme au début. Nous savons que Jésus allait les dépasser, mais puisqu'ils étaient troublés, Jésus est allé envers eux pour le rassurer. Nous savons que Pierre a demandé d'aller vers Jésus et on a toute l'histoire de Pierre qui marche sur les eaux et qui regarde les ondes et qui commence à enfoncer et Jésus le sauve. On a cet épisode-là. On sait que Jésus est bel et bien monté dans la barque et nous savons que le vent est tombé tout de suite et les disciples se sont prosternés devant lui pour dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Et nous savons aussi que les disciples n'ont pas tout à fait compris. Marc nous dit qu'ils étaient stupéfaits car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Beaucoup de choses que Jean aurait pu nous dire, mais il ne les a pas dit. Et ce n'est pas comme s'il n'avait pas tous ces détails-là. Jean était là dans la barque. Il y a encore une chose remarquable ici. Il s'agit clairement d'un miracle. Et on a vu tout au long de ce livre que là où on voit un miracle, Jean dit que c'est un signe. Et là où la traduction Colombe dit miracle, on devrait traduire signe parce que Jean a fait exprès pour choisir certains signes pour qu'on les interprète et pour qu'on les comprenne. 7 signes pour nous présenter l'argument que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mais, même s'il s'agit d'un miracle ici, Jean n'identifie pas cet épisode comme un signe. On pourrait dire, ok, il ne l'explicite pas, mais c'est forcément un signe quand même. Et il y a plusieurs bons commentateurs qui le disent, et ce n'est pas la fin du monde s'ils disent ça. Mais vous vous souvenez peut-être la dernière fois, j'ai dit que Jean nous présente les 7 signes dans une structure qu'on appelle un chiasme. Où on pourrait dire que c'est comme une pyramide. Et la dernière fois, on était au 4e signe, donc tout au milieu de ce chiasme, ou le pic de la pyramide. Et en montant et en descendant, les signes sur les 2 côtés se correspondent. Et le signe précédent, le 3e signe, c'était la guérison d'un homme malade qui était assez cynique. Alors le 5e signe, qui va correspondre avec ça, est-ce Jésus qui marche sur les eaux ou est-ce plutôt le miracle suivant où Jésus guérit un homme aveugle qui fait preuve d'une foi exemplaire? Pareil pour le niveau juste en dessous, Jésus qui guérit le fils d'un officier royal qui était prêt de mourir au chapitre 4 et au chapitre 11, Jésus qui ressuscite Lazare qui était mort. Tout cela pour dire que ce miracle où Jésus marche sur les eaux ne figure pas dans les 7 signes que Jean a choisis. Et on peut constater quelques différences aussi entre ce miracle et ceux choisis par Jean comme des signes. Dans les sept signes, on a Jésus qui effectue un changement ou une transformation. Que ce soit une guérison ou le fait de transformer quelque chose comme l'eau en vin ou la multiplication des pains. Et vous pourriez me rappeler que Jésus a calmé cette tempête lorsqu'il est entré dans la barque. Et je vous rappellerai que Jean ne mentionne pas ce détail-là. Il se concentre sur le simple fait de marcher sur les eaux. C'est ça le miracle en question. Il dit au verset 21 qu'ils sont arrivés tout de suite après. Mais en fait, il n'est pas clair et les commentateurs ne sont pas d'accord. Même les plus... c'est pas juste les libéraux qui sont pas sûrs qu'il s'agit d'un miracle. Ils pourraient vouloir dire juste qu'ils sont arrivés assez rapidement, que puisque la mer était calme, c'était assez facile d'arriver à l'autre côté. Donc on ne sait pas si c'était miraculeux qu'ils sont arrivés tout de suite ou c'était juste rapide. De plus, pour les signes, il est fait en public généralement, et là on n'a que les disciples. Donc il faut se poser la question, pourquoi a-t-on ici un miracle qui n'est pas listé comme un signe? En posant la question, les signes, que signifient-ils? On connaît la raison pour laquelle Jean les a choisis, dit à la fin du livre, mais globalement, généralement, que nous signifient-ils? Ils représentent tous un aspect, un élément de son règne messianique, la nouvelle création qu'il va inaugurer en tant que Christ et Fils de Dieu, la vie éternelle qu'il propose. C'est un symbole. Par son règne messianique, nous serons invités au mariage, au grand festin où l'on boira le meilleur vin et on aura de quoi manger en abondance. La mort et la maladie seront vaincus. Jésus va apporter, restaurer, compléter, glorifier la vie pour toujours. Et il sera au centre de tout cela. Les signes donnent un avant-goût, un symbole de tout ce que va apporter le Christ. Qu'en est-il de ce miracle alors? Ayant posé ce contexte, puisque le récit est si court, je vais le relire en fait, et on verra ce qui se passe, et noter en particulier l'expérience des disciples dans ce récit. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque. Et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque touche à terre, là où ils allaient. Que voyons-nous donc dans l'expérience de ces disciples? On pourrait dire qu'on voit trois étapes. Dans un premier temps, ils sont dans les ténèbres sur la mer violente. C'est assez clair, dans les ténèbres sur la mer violente. On sait déjà qu'il s'agit du soir, mais Jean ajoute au verset 17 que les ténèbres était déjà venu. Et ça, on aurait pu présumer, mais il ajoute quand même ce détail. Et lorsque Jean tire notre attention aux ténèbres, ce n'est jamais anodin. Au chapitre 3, Nicodème vient vers Jésus de nuit. D'un côté, ça nous montre qu'il voulait voir Jésus en secret, mais c'est aussi un commentaire que nous donne Jean sur son état d'esprit. Nicodème est dans le noir. Il ne comprend pas. Il vit en rébellion contre Dieu. Puis plus tard, au chapitre 13, lorsque Judas sort pour aller trahir Jésus, Jean ajoute, il faisait nuit. Et dans le prologue, Jean parle de la lumière qui brille dans les ténèbres et du fait que les ténèbres ne l'ont pas reçue. C'est-à-dire la parole qui continue à se révéler, Dieu qui continue à se révéler dans un monde déchu, un monde qui a rejeté son Créateur. Les ténèbres, c'est le monde après Genèse 3. Un monde de péché et de misère, de rébellion et de souffrance. Donc le fait de souligner les ténèbres indique que Jean voit un sens plus large et même symbolique dans ce qui se passe ici. Il veut qu'on soit rassuré et qu'on comprenne quelque chose pour nous-mêmes dans ce récit. Ils sont sur la mer violente, cet énorme lac de Galilée. Et dans la Bible et dans la pensée juive en général, la mer signifiait le chaos et le danger. S'ils avaient entendu Charles Trenet avec sa chanson « De la mer », où il chante de la mer qui danse et qui berce et tout ça, ils auraient trouvé très très bizarre. Dans le livre de l'Apocalypse, comment Jean communique-t-il que la nouvelle création sera un monde de paix et de calme? Il dit tout simplement « et la mer n'était plus ». Ce n'est pas un détail géographique, c'est une façon de dire qu'il y aura une absence totale de tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous menace. Et dans toutes les Écritures, c'est très clair que si l'on veut parler de l'idée de maîtriser la mer, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tellement la mer est grande et puissante, il n'y a que Dieu qui pourrait maîtriser. Dans les psaumes, comme on a vu, et ailleurs, c'est là qu'on parle, pour parler de la puissance de Dieu, on fait référence à son contrôle de la mer. Cette maîtrise qui a été démontrée si clairement, en particulier dans l'Exode, lorsque l'Éternel a divisé la mer Rouge pour son peuple, pour que son peuple puisse traverser. Mais ici, les disciples sont dans les ténèbres et dans le vent sur la mer chaotique. Voici la première étape de l'histoire. Puis la deuxième étape, ils voient Jésus qui marche sur la mer. Et c'est intéressant de voir que c'est là où ils ont saisi de crainte. Ce n'est pas dans la première étape, dans la deuxième étape, que c'est là où ils sont saisis de crainte. Certes, en partie, comme on voit dans les autres évangiles, parce qu'ils ne comprenaient pas, certains pensaient que c'était un fantôme, mais c'est aussi parce qu'ils savent qu'il n'y a que Dieu qui maîtrise la mer. Dans Job, en fait, Job 9, 8, pour parler de la puissance de Dieu, Job déclare que c'est Dieu qui a étendu les cieux et piétiné les mers. En fait, dans la traduction grecque, il utilise cette phrase, qui marche sur la mer. Ça, c'est la puissance de Dieu, c'est lui qui marche sur la mer. Et c'est là où ils ont peur, ils ont là quelqu'un qui a la puissance qu'a nul autre que Dieu. Et puis Jésus s'identifie. Cet homme qui fait ce que Dieu seul peut faire, c'est leur maître Jésus. Il dit « C'est moi, soyez sans crainte. » Alors là où il dit « C'est moi », c'est tout à fait juste comme traduction, mais c'est littéralement « Je suis ». Et c'est tout à fait ce qu'il faut dire en grec si l'on veut dire « C'est moi ». Donc ce n'est pas mal traduit, mais on ne peut pas nier quand même que là on a une allusion au nom de Dieu tel qu'il a révélé à Moïse. Il est « Je suis ». Et on voit souvent cette phrase « Je suis », on va le voir beaucoup plus souvent dans Jean, pour souligner l'identité divine de Jésus. Il est « Je suis », c'est Yahvé lui-même. Et c'est là que l'on voit la différence entre les signes et ce miracle-ci, en fait. Quant aux signes, on voit un symbole, un avant-goût de la réalité qui nous attend grâce au Messie. Une chose à interpréter, une chose à comprendre, et puis une leçon à apprendre. Mais dans ce miracle-ci, ce n'est pas que Jésus a signifié sa maîtrise de la création et sa maîtrise même de la mer. Non, il maîtrise carrément la mer. Il n'a pas signifié une réalité future, mais une réalité présente. Ce miracle est une rencontre claire et direct avec Jésus en tant que Dieu. Et c'est un Dieu qui vient envers eux dans les ténèbres et sur la mer et qui leur dit « N'ayez pas peur ». Et pourquoi pas? Parce que c'est moi, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on n'a pas à avoir peur. Jésus est celui qui peut atteindre tout le monde. Et puis nous arrivons à la troisième étape. Qu'est-ce qui se passe après ? Ben, regardant les autres évangiles, on sait qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a l'histoire avec Pierre qui marche avec Jésus, etc. Et Jésus qui monte dans la barque et le vent qui se calme. Mais Jean n'indique qu'une chose ici, avant leur arrivée à l'autre côté. Non pas que Jésus est monté dans la barque, mais que les disciples ont voulu le prendre. Ou on pourrait dire recevoir. Les disciples ont voulu recevoir Jésus dans la barque. Et souvenons-nous ici du prologue dans Jean chapitre 1. Lorsque la lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Lorsque la parole est venue aux siens, les siens ne l'ont pas reçue. C'est-à-dire, lorsque la rédemption de Dieu a été révélée à sa propre création, depuis Adam jusqu'à maintenant, sa création ne l'a pas reçue. Mais pour ceux qui l'ont reçue, la parole leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Jésus est venu aux disciples dans les ténèbres, et une fois qu'il a déclaré que c'est lui, et qu'il leur a dit de ne pas avoir peur, comment vont-ils répondre ? En le rejetant, comme fait le monde d'habitude, en préférant les ténèbres à la lumière ? Non. Ils voulaient donc recevoir Jésus dans la barque. Jean focalise sur ce désir de recevoir Jésus. Et puis, pour souligner que Jésus est bel et bien Dieu, qu'il est bel et bien celui qui maîtrise même la mer, on voit qu'ils ont vécu la même chose que ceux dans le psaume 107 ont vécu. Ils se réjouirent de ce qu'ils étaient apaisés, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Mais ils ont voulu recevoir Jésus dans la barque, en reconnaissant qu'il est Dieu. Que devons-nous apprendre donc de ce récit, de ces trois étapes ? Ben, reconnaissons d'abord que nous vivons tous, d'une manière ou d'une autre, dans les ténèbres. Si l'idée d'une nuit sombre et orageuse est un cliché, c'est parce que nous comprenons tous ce que ça représente. De manière différente, mais on comprend tous. Que ce soit les ténèbres absolu du péché et de la rébellion contre Dieu, le refus d'accepter notre Créateur, ou dans les autres situations auxquelles nous pourrons faire face, même en tant que croyants aussi, ce serait peut-être les ténèbres et le chaos de la souffrance, qu'elles soient physiques, mentales, spirituelles, relationnelles, matérielles, ou peut-être les ténèbres du péché, la bataille contre toutes sortes de tentations, le découragement face à un manque de progrès spirituel ou au manque de discipline, même juste l'envie de tout abandonner. Face aux ténèbres, de quoi avons-nous besoin ? Auriez-vous besoin de signes qui vous expliquent tout ce que représente Jésus pour vous en tant que Messie ? Oui ? Mais pas que. Auriez-vous besoin d'une bonne compréhension du sens de ces signes ? Oui, mais pas que. Auriez-vous besoin de toute la Bible qui vous pointe vers Jésus ? Oui, mais pas que. Quel est votre plus grand besoin ? Je pense qu'il faudrait le dire ainsi, en fait. Votre plus grand besoin, ce n'est pas une bonne compréhension de l'Évangile. Et je comprends que ça peut être un peu osé de dire ça, surtout dans une église évangélique. Et je vous assure que je ne suis pas en train de contredire ce qu'on voit dans Galates avec Samuel. Mais votre plus grand besoin, ce n'est pas une bonne compréhension de l'Évangile. Votre plus grand besoin, c'est Jésus-Christ. Alors, il faut bien sûr bien comprendre l'Évangile. C'est essentiel. On ne peut pas recevoir Jésus sans entendre l'Évangile et le comprendre. Mais ça ne sert à rien si on ne prend pas ce pas essentiel en réponse à l'Évangile de recevoir non pas juste une bonne compréhension de l'Évangile, ou de la Bible, ou des signes, mais Jésus-Christ lui-même, en tant que Messie, en tant que Dieu, en tant que tout ce qu'il est pour nous. On commence à voir dans Jean, et on le verra encore, que beaucoup de ceux qui aimaient bien Jésus, ils aimaient parce que grâce à tous ces signes, ils recevaient plein de choses, plein de bienfaits différents. La foule, la dernière fois, ils ont très bien mangé grâce à Jésus. Mais qui a compris le signe? Très peu d'entre eux. Et on verra ça la prochaine fois. Ça se voit dans le fait qu'ils n'ont pas compris que ces signes pointaient vers le fait que c'est Jésus lui-même leur plus grand besoin. Ils voulaient juste quelqu'un qui pourrait reproduire ces signes. Mais on voit ici que Jésus est le Dieu souverain qui vient aux côtés de son peuple dans les orages ténébreux. Il est le Dieu souverain qui vient aux côtés de son peuple dans les orages ténébreux. Nous n'avons pas à avoir peur de lui, mais tout simplement le recevoir. Recevoir tout ce qu'il est pour nous. Le recevoir en tant que créateur et maître de l'univers. Le recevoir en tant que rédempteur, sauveur, venu pour nous sauver de ces ténèbres. Venu pour rendre possible ce monde où la mer n'était plus. Et bien sûr, il a dû le faire en faisant face lui-même à l'orage et aux ténèbres les plus profondes qui soient, en faisant face à la colère divine que nous méritons lorsqu'il mourait sur la croix, sous un ciel complètement noir. Et donc votre plus grand besoin, ce n'est pas une simple compréhension de l'Évangile, mais Jésus-Christ lui-même. Jésus qui vient aux côtés de son peuple, même dans les orages ténébreux. Donc, posons-nous tous la question, est-ce possible que j'ai rien de plus que le fait juste j'ai compris un système de pensée, ou peut-être j'ai compris un système de salut, j'ai peut-être même compris la dynamique de l'Évangile, mais je n'ai pas saisi le Sauveur lui-même, je n'ai pas reçu Jésus-Christ. Est-ce que je suis arrêté à l'étape où je me suis dit « Ah oui, je comprends, c'est une merveilleuse nouvelle, c'est très sympa, c'est super », mais sans dire « Ô Seigneur », lui-même, directement, personnellement, dans l'humilité, j'ai besoin de toi. Je veux te recevoir, mon Dieu. Je reconnais que je suis dans les ténèbres et j'ai vraiment besoin de toi. Même si tous les disciples n'ont pas compris tout de suite cette nuit-là, c'est clair que Jean a compris que ce dont il avait besoin n'est rien d'autre que la présence de Jésus. Notre Dieu souverain avec lui. Ils avaient besoin de Jésus plus que le miracle qui suivait, où Jésus a calmé la tempête. Et vous diriez peut-être, bon, tant mieux pour ses disciples, Jésus est venu envers eux, dans leur détresse, mais il est où maintenant? Dans mes troubles à moi. Et c'est ça le privilège que j'ai en tant que prédicateur et pasteur. Ce n'est pas de partager mes propres pensées, ou juste donner des leçons, mais de prêcher la parole de Dieu, et c'est ça le moyen par lequel Jésus vient vers son peuple par son esprit. Comme le dit Paul dans Romains 10, la parole est près de toi. C'est-à-dire, vous êtes en train d'entendre la parole de Jésus, là maintenant. Si vous êtes en train d'écouter la proclamation de la parole de Dieu, et vous l'êtes maintenant, à l'instant, c'est le Seigneur Jésus qui vient vers vous et qui vous appelle. C'est lui qui est en train de venir envers vous dans toutes les ténèbres auxquelles vous faites face, toutes les vicissitudes de vos vies. C'est lui qui vient et qui dit « C'est moi, je suis, n'aie pas peur. » C'est Jésus qui dit à chacun de vous, chacun de nous ce matin, « C'est moi, ton Dieu, n'aie pas peur. Veux-tu donc me recevoir ?» Je vous exhorte donc, en son nom, à recevoir Jésus-Christ, accepter Jésus comme le maître absolu de votre vie, de chaque aspect de votre vie, en tant que créateur et rédempteur. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes vont disparaître tout de suite. La promesse d'un monde où la mer n'est plus est pour l'avenir. C'est garanti, mais c'est pour l'avenir. Mais vous aurez le Seigneur Jésus là avec vous dans la tempête. Vous pourrez lui exprimer vos craintes, vos peines, vos regrets, vos confessions, vos confusions, vos joies, vos espérances, vos louanges. Vous aurez la vie éternelle en lui, que Jésus définit comme fait de connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Dans l'intimité de la communion éternelle, qu'est la vie éternelle. C'est une réalité que l'on connaîtra beaucoup plus profondément et parfaitement dans la nouvelle création, mais c'est quand même une vie éternelle qui peut démarrer tout de suite par le simple fait de recevoir Jésus, notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. Recevez-le alors. Prions. Notre Père, nous te remercions pour le Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, nous te louons parce que tu es Dieu. Tu es ce Dieu dont la bienveillance dure pour toujours. Nous te remercions parce que tu te souviens très bien de cette nuit-là où tu as marché sur les eaux. Tu te souviens du regard sur chaque visage de chaque disciple. Tu t'es réjoui du fait qu'ils ont voulu te recevoir dans la barque. Tu les as aidés, mais tu étais là avec eux. Et tu nous vois aussi, tu nous vois dans les ténèbres de nos vies, dans nos troubles, nos souffrances, mais aussi dans nos péchés. Et tu veux venir envers nous, dans le plus profond de nos ténèbres, dans le chaos auquel on fait face. Et tu veux venir. Et Seigneur, tu veux qu'on te reçoive aussi. Seigneur, par ton Saint-Esprit, par ta puissance, aide-nous à te recevoir. Notre Père, aie pitié de nous. Accepte-nous. Envoie ton Esprit pour nous sauver, pour qu'on reçoive Jésus-Christ, pour qu'on puisse entrer dans ta famille et connaître ton amour éternel. Aide-nous à nous aider les uns les autres aussi à poursuivre Jésus, saisir Jésus-Christ chaque jour dans toutes ses promesses, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il est pour nous. Aide-nous à te glorifier en Jésus-Christ, tous ensemble. Et c'est au nom de Jésus que nous prions ces choses. Amen.